Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Nouria Newman est une kayakiste de l'extrême, un petit bout de bonne femme au cœur bien accroché et aux yeux intrépides. Les plus gros rapides la transcendent, elle les franchit avec son kayak dans une chorégraphie qui n'a rien d'improvisé. Elle est à la fois championne du monde et aventurière, avec, dans tout ce qu'elle entreprend, un dénominateur commun, l'adrénaline associée à une soif de découverte. Une eau déchaînée, des remous, des siphons entre deux parois rocheuses, nous allons suivre Nouria Newman en kayak. Mais aujourd'hui, elle se pose quelques minutes pour Vie d'aventure. Bonjour Nouria.
Bonjour.
Alors avant de parler, je vous invite toutes et tous à aller vraiment voir les vidéos de Nouria Newman avec son kayak dans les rapides les plus impressionnants du monde. C'est assez exceptionnel. Mais là, on va essayer, Nouria, de traduire toutes ces émotions, toutes ces sensations par des mots. Tu te souviens de tes débuts? Nouria, à 5 ans, à la Plagne, c'est tout pitchoun, 5 ans pour monter dans un kayak.
Alors, c'est vrai que moi, mes débuts, je pense que je servais à rien. C'est-à-dire que j'étais tellement petite que je n'arrivais pas bien à pagayer. En fait, le bateau était trop large par rapport à la pagaie. Mais j'avais envie d'en faire parce que j'ai des amis de mon père qui étaient venus à la maison avec un kayak en plastique sur le toit. Et j'étais convaincue que c'était une sorte de Playmobil géant et un jouet génial. Et quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais en faire, ils m'ont dit non, parce que je ne savais pas nager. Le fait qu'ils m'aient dit non m'a encore plus donné envie d'aller en faire. C'était un peu un challenge. Et j'ai pris des cours de natation et puis je suis arrivée avec un espèce de certificat et un écusson. Il était horrible, cet écusson, c'était un canard jaune brodé sur fond bleu, j'en étais hyper fière. Et du coup, ils ont été obligés de m'inscrire au club de kayak. Et ma première rivière, c'était le Chéran, dans les Bauges. Et j'en ai un souvenir incroyable. C'était presque comme une de mes plus grosses expéditions, parce que je me souviens, on avait les bateaux en fibre de verre, donc qui cassait, et puis on avait dû les descendre avec une corde et descendre en rappel pour accéder à la rivière. Et après, on était dans cette gorge du Chéran qui est pas difficile à naviguer, mais qui est très jolie, et on se sent un peu loin de tout. Et ça, c'était ma première vraie rivière en kayak.
La vocation était née, ensuite tu as gravi les échelons pour être l'une des meilleures de la planète, vice-championne du monde en 2013 à Prague, championne du monde par équipe en 2014. Mais on va laisser de côté cette compétition pour essayer de comprendre pourquoi, à un moment, tu décides de t'éloigner de la compétition officielle pour te diriger vers le kayak extrême.
J'ai eu beaucoup de chance, en fait, dans mon apprentissage du kayak. C'est que, en parallèle du système de club et de la fédération qui est très orientée sur la compétition, j'ai mon père qui a commencé plus ou moins en même temps. Et lui, il avait une pratique loisir. Et donc, en fait, via mon père et ses copains, j'ai toujours gardé un pied dans ce milieu du kayak loisir où vraiment, tu mets ton bateau sur le toit de la voiture et puis tu pars en week-end camping pour aller descendre quelques sections de rivière, sans objectif de résultat, sans objectif de performance. Et du coup, en parallèle du slalom, j'avais cette pratique et du freestyle et de la rivière hors compétition. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée parce que j'ai vraiment fini ma carrière de haut niveau sur une succession d'échecs. Et donc,
avec des blessures, avec quasiment même un burn-out. Hein. Je crois que psychologiquement, ta fin de carrière a été difficile à gérer.
Ben, j'arrivais plus à performer. C'était une année très compliquée. Parce qu'en plus de l'opération, j'ai eu pas mal de décès de proches, justement, en kayak. Des événements qui te font remettre en cause ben, un peu tout ce que tu fais. Et je me demandais, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais chaque année faire les mêmes Coupes du Monde, les mêmes courses sur les mêmes endroits, les mêmes stages d'entraînement? Et au final, c'était plus suffisant parce que avant mes premiers gros résultats, je m'imaginais que le jour où je ferais un podium en Coupe du Monde, ce serait formidable et ça changerait ma vie. Et en fait, quand ce jour il est arrivé, je suis montée sur une boîte, je me suis sentie mal à l'aise devant des gens. Il y a un homme en costard qui m'a passé un bout de métal autour du cou et qui m'a serré la main. Et puis, fondamentalement, rien n'a changé. Bah, ça, plus les échecs, plus les coups durs, ça m'a vraiment forcée à tout remettre en question. Et je pense à me réorienter sur ce que j'aime le plus au monde, en fait.
Ce qu'on comprend, en tout cas, Nouria, c'est que tu avais beaucoup plus que de compétition, envie d'évasion, de liberté, de voyage, de découverte.
Ouais, souvent on disait que j'étais rebelle parce que je faisais pas comme tout le monde, je respectais pas mes plannings d'entraînement nécessairement, je partais faire de la rivière sur des périodes où j'aurais en théorie dû me consacrer exclusivement à slalom, mais je pense que j'avais besoin de cet équilibre-là.
Alors en 2014, tu es la première femme à descendre au Canada le Grand Canyon de la Stikine, 72 km en Colombie-Britannique, hein, du côté ouest canadien, avec un passage extrêmement difficile appelé Site Z. Alors dans Vie d'aventure, Nouria, on essaye de traduire par des mots des émotions, des sensations. Et j'aimerais qu'on soit avec toi dans ce kayak, virtuellement dans un kayak biplace, pour se rendre compte de ce que l'on ressent quand on dévale des rapides aussi impressionnants que ce Grand Canyon.
C'est un peu notre Everest à nous, notre rivière de référence. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, assez technique. C'est peut-être pas la rivière la plus dure au monde, mais en tout cas, c'est une grosse rivière de référence. C'est vraiment une de ces grosses rivières canadiennes. Ça part, c'est tout plat, c'est tranquille. Et d'un coup, en fait, on se retrouve coincé entre deux murs verticaux. Et le courant est assez fort. Et en fait, à partir du moment où on s'engage dans le canyon, on sent vraiment qu'on n'a plus la possibilité de faire marche arrière. Et là, c'est un engagement qui est total parce que le seul moyen de sortir de là, c'est vraiment de descendre la rivière. On est quand même obligé de franchir un certain nombre de rapides d'une difficulté classe 4, classe 5.
Alors justement, Nouria, quand on est dans Site Z, ce passage si difficile, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on a le souffle coupé? Est-ce qu'on crie? Dans quel état d'excitation est-on quand on est finalement dans un endroit où on sait qu'on a très peu de marge de manœuvre pour s'en sortir?
Souvent, les gens pensent à l'adrénaline et vraiment à de l'action rapide, saccadée, des grosses secousses. Et en fait, quand je m'engage dans ces gros rapides, justement, je suis dans un état très calme. J'entends presque plus le bruit autour de moi. Je suis vraiment concentrée sur ce qui se passe. Et même dans la réalisation du rapide ou de la chute, même si tout se passe très vite, j'ai l'impression que le temps s'allonge et qu'en fait, tout va doucement. Et c'est des moments assez uniques parce que dans ces instants, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et c'est vraiment soit les mouvements d'eau, la rivière qui sera toujours plus puissante que nous et qui finalement nous laisse un droit de passage dans la mesure du possible. Il faut composer avec. C'est assez lent, c'est assez silencieux.
Est-ce que dans des rapides aussi compliqués, la moindre erreur technique, tactique peut être fatale?
Sur tous ces rapides-là, l'erreur, elle ne pardonne pas. En tout cas, les conséquences d'une erreur, elles peuvent être élevées. Parfois, on peut s'en tirer, avoir de la chance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques.
Comment tu gères la prise de risque de ton métier, de cette activité qui est dangereuse? Il faut bien le reconnaître, surtout sur ces rapides extrêmement complexes.
il faut du temps, en fait, pour arriver à bien se connaître et à connaître ses limites, qu'elles soient techniques, physiques et aussi parfois mentales. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est capable de descendre un rapide, mais parce qu'on a été capable de le faire il y a une semaine, ça ne veut pas dire qu'on sera capable de le faire demain. Et c'est vraiment d'arriver à avoir un maximum de connaissances sur soi et sur l'environnement, donc sur la rivière, pour pouvoir prendre ses décisions. En fait, c'est un peu comme si on arrive, on a un problème, on l'analyse et après, il faut assembler les pièces pour voir si on peut passer ou pas. Et souvent, on descend rapide, mais il y a aussi de très nombreuses fois où finalement, on décide de faire ce qu'on appelle un portage, c'est-à-dire qu'on le contourne par la berge.
Nouria, et on reviendra sur des moments particulièrement complexes, notamment en 2018, lorsque tu effectues une très grande descente seule au Ladakh. Mais d'abord, une question forcément un peu indiscrète, mais je me dois de te la poser. Est-ce que quand tu es au départ d'un passage aussi complexe que Side Z, tu te dis qu'il est possible que tu n'en ressortes pas ?
Ça... Non, si j'ai le moindre doute, en fait, je vais pas faire le rapide. C'est-à-dire qu'au moment où je suis en haut d'un rapide, que j'ai décidé de descendre, il faut que je sois en total accord avec moi-même et vraiment me focaliser que sur les choses que je dois faire.
Nouria, on va maintenant traverser le monde, laisser l'Ouest canadien pour se retrouver en Himalaya, du côté de la région préservée du Ladakh, où tu décides de descendre sur 375 km seul.
Partir sur un solo, c'est quelque chose de très controversé. Souvent, la règle de base, c'est jamais seul.
Et on peut le comprendre.
Et on peut le comprendre parce que forcément, quand on est deux ou trois... on a la possibilité de vraiment mettre en place ce qu'on appelle de sécurité, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un en position dans son kayak en bas d'un rapide ou une corde à un endroit qui peut poser problème. Et quand on part tout seul, en fait, on n'a plus de sécurité. C'était un moment où j'avais besoin de me retrouver seule. Je ne m'étais pas encore tout à fait remise de la fin de ma carrière de haut niveau, des décès de proches que j'avais eus. Je pense que j'avais besoin de faire le point et puis j'étais partie en Inde pour faire une compétition et depuis l'arrêt du slalom, je m'étais dit je ne prends plus d'avion juste pour faire une compétition. Donc j'avais couplé ça avec une expédition de 2 semaines au sud de l'Inde et là en fait pendant 2 semaines on s'est heurté à des contrôles de police, nos permis pour naviguer sur les rivières nous ont pas été accordés. Même quand on essayait en fait d'embarquer illégalement sur des rivières, on se faisait arrêter avant même d'avoir posé nos bateaux à l'eau. On a réussi à la fin en faisant un peu un sale coup à notre chauffeur. On lui a dit qu'on voulait juste aller voir des chutes comme attraction touristique et puis on a déchargé nos bateaux, on est parti en courant. C'était pas très sympa. Et du coup, je me suis dit, je suis en Inde. Je vais pas rentrer en France, je vais rester quelques semaines de plus et je vais aller au Ladakh faire cette expédition dont j'avais entendu parler, seule. Et ça sera génial.
Nouria, donc, tu pars au Ladakh, dans cette partie très préservée de l'Himalaya, pour une descente en solo, 375 km, avec des fortunes diverses. Le deuxième jour, Nouria, raconte-nous ce qui se passe quand finalement, avec ton kayak, tu te coinces dans un siphon et que tu te retrouves hors de ton embarcation.
J'étais pas hyper concentrée et je suis arrivée sur un rapide un peu plus difficile que la moyenne et je me suis fait un peu décaler de 20 cm par une vague latérale parce que j'avais pas assez de vitesse et puis les bateaux sont lourds en expédition parce qu'on a tout notre matériel dedans. Notre duvet, la nourriture, enfin tout ce qu'il nous faut pour être en autonomie. Pendant une semaine. Et en fait, ça m'a ramenée contre un amas rocheux. Je ne pouvais pas sortir. Et toute l'eau, en fait, se faisait aspirer dans ce qu'on appelle un siphon. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de m'en sortir sans me faire aspirer. Et au bout de de 3 minutes de bataille, j'ai le bateau qui a glissé. Et donc, j'avais coincé ma pagaie et un sac. J'étais en train d'essayer, moi, de sauter sur ces cailloux pour m'en sortir. Et au final, je me suis fait aspirer donc sous l'eau. Et là, les secondes, ça va très vite. Hein, c'est 5-6 secondes maximum. Mais les secondes sont très longues parce qu'on ne sait jamais si on va ressortir ou pas.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu es sous l'eau, dans cette espèce de machine à laver avec le mode essorage à 1500 tours minute?
À partir du moment où je me suis fait aspirer, c'était fini parce que je ne pouvais plus rien faire. Et je me suis dit, ben là, c'est 50-50, ça sort ou ça ne sort pas. Et j'ai pas eu de flashback ou de choses vraiment incroyables qui se sont passées à ce moment-là. J'étais juste extrêmement en colère et je pensais, mais quelle idiote, quoi. Quelle idiote, comment est-ce que tu as pu faire une erreur pareille et finir dans cette situation-là? Donc, je suis ressortie. Le problème, c'est que j'étais à la nage, mon kayak était en aval de moi, j'étais encore en plein milieu du canyon, donc j'essayais de nager après mon kayak, de le rattraper et là de le ramener au bord à la nage. Donc il faut savoir que il fait à peu près 40 kilos avec tout le matériel qu'il y a dedans et qu'en plus de ça, il est plein d'eau. J'ai réussi à m'arrêter au bord et là, au moment où je me retourne, je vois ma pagaie flotter que j'avais coincée sur des cailloux. C'est un peu un soulagement parce que si j'avais perdu ne serait-ce qu'une petite partie de mon matériel, j'aurais dû sortir à pied. Donc je pense que j'aurais eu 3 ou 4 journées de marche toute seule avant de pouvoir appeler à l'aide. Et puis j'avais mon sac étanche que j'avais coincé sur les cailloux du siphon. Et dans ce sac étanche, en fait, c'est celui que j'ai entre mes jambes, qui est vraiment le sac le plus important parce que dedans, j'avais mon passeport, le permis militaire pour être dans la zone où j'étais, une carte bleue au cas où, ma balise GPS, donc mon seul contact avec l'extérieur, et ma carte. Et donc, en escaladant, au bout d'une heure, j'ai quand même réussi à retraverser en kayak, m'arrêter juste derrière le siphon, sortir du bateau et j'ai réussi à récupérer mon sac. Et une fois que j'ai rembarqué et que j'ai passé encore ce canyon que j'avais passé la première fois à la nage, c'est là où en fait c'était finalement le plus dur parce que j'avais quasiment un jour et demi de section de rivière très facile, très plat. Du coup, on n'a pas vraiment besoin d'être concentré sur ce qu'on fait en kayak et j'avais vraiment beaucoup trop de temps pour réfléchir et pour me repasser en boucle ce qui s'était passé, l'accident, et puis faire face à mes propres démons et mes peurs les plus profondes. Donc, je me suis rendu compte que j'avais peur du noir.
Ah ouais?
Ouais.
Toute seule la nuit.
Il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse, il y avait de la tristesse, il y avait un peu tout ce que j'avais accumulé les années d'avant qui sortait, quoi. Et la seule chose que j'avais envie de faire, si j'avais pu me téléporter, finir dans le canapé de chez ma mère avec une tasse de chocolat chaud et un câlin, mais je l'aurais fait mais sans hésiter. Mais en fait, j'avais pas d'autre choix que de continuer, donc il fallait un peu faire face et continuer à avancer.
Je voudrais qu'on reste quand même dans l'Himalaya. Et je te cite, tu dis, là-bas j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai parlé toute seule comme une folle. Est-ce que cette descente solo, ce moment où tu étais seule face à toi-même, c'est pas une sorte de psychothérapie pour mettre un terme définitif à tout ce qui t'avait manqué pendant ta période de kayakiste de haut niveau?
Alors, je dirais que ça dépasse très largement ma période de kayakiste de haut niveau. Fin 2014 et début 2015, on a perdu des amis proches. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. C'était assez affreux parce que tous les 2 mois, je recevais un coup de téléphone et c'était un copain qui s'était noyé ou qui avait eu un accident. Et je pense que c'était très difficile parce que à chaque fois j'étais là, mais c'est tellement débile de prendre des risques comme ça. Le kayak, est-ce que ça vaut vraiment de perdre la vie comme ça? Je pense que si l'ADEC m'a permis une chose, c'est vraiment d'adopter une ligne de conviction par rapport à ma pratique et sur ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'on calcule les risques, on les limite au maximum, mais il n'y a pas de risque zéro. Soit on arrête, mais c'est compliqué de vivre sans faire ce qui nous rend le plus heureux finalement. Soit on accepte les risques et on compose avec pour être encore meilleur et pour les limiter au maximum, sachant qu'il y a toujours des risques.
Nouria, il y a évidemment les bras, les jambes, mais aussi la tête pour vivre en équilibre à côté de cette carrière de kayakiste, puisque tu as entamé des études de journalisme en parallèle à Sciences Po Toulouse. C'était important pour toi de ne pas mettre, entre guillemets, tous tes œufs dans le même panier et d'avoir une ouverture d'esprit à côté du kayak?
Ça faisait partie du contrat dès le début avec mes parents. C'est-à-dire que dès l'école primaire, si j'avais pas des bonnes notes ou si j'avais des problèmes de comportement, c'était pas de kayak. Donc c'est quelque chose qui est un peu resté. Et mes parents étaient très cool parce qu'ils me laissaient sécher les cours si j'avais des bonnes notes pour aller faire du kayak. On a eu des petits soucis avec le collège. Je crois qu'à un moment donné, ils menaçaient d'appeler l'assistante sociale parce que j'avais trop d'absence. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a forcée à toujours avoir ce double projet. Et quant à la Fédération française de kayak, on m'a dit non, mais Sciences Po, n'importe quoi, ça n'arrivera pas à t'entraîner. Et du coup, ça me permettait d'avoir un cursus assez généraliste et puis de pouvoir décider plus tard. Au final, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Je veux continuer de voyager et de vivre tout ce que je peux vivre encore en kayak. Et puis le reste, je verrai après, quitte à avoir les remarques. Ah, mais tu vas bientôt arrêter tes bêtises et avoir un vrai travail.
Mais peut-être que le journalisme et ce que tu as acquis à Sciences Po te permettront d'écrire et de traduire par des mots tout ce que tu as vécu en kayak à travers le monde.
Ouais, pourquoi pas. Après, souvent, le plus intéressant, c'est ce qui se passe en dehors du kayak. C'est vraiment surtout aussi un moyen de transport assez unique et une manière de voyager qui permet vraiment d'aller à la rencontre de l'autre, parce que souvent, on est tout seul ou par petits groupes, on a ce truc en plastique de couleur vive. Et au lieu d'aller vers les gens, c'est les gens qui viennent vers nous et qui vont nous demander ce que c'est, et on va créer des liens. Et c'est pas rare en fait d'attendre un bus et puis de finir invité chez les gens du village d'à côté, parce que en fait on a parlé 10 minutes, on s'entend bien, le bus est en retard et puis suite demain il nous convient aussi au niveau des horaires, quoi.
On va continuer en s'intéressant à ce déplacement en Patagonie chilienne, où là, vous allez descendre 9 rivières, 5 énormes descentes, dont 4 premières mondiales. Là, c'est des questions assez techniques. Comment on se lance dans une première mondiale sans avoir forcément de référence?
Alors, en fait, on est un peu des geeks. On passe énormément de temps sur Google Earth. Donc on regarde les images satellites, on s'informe, on regarde les rivières qui ont été descendues dans les mêmes zones, s'il y en a. Et après, en fait, avec les courbes de dénivelé, on arrive à savoir, ok, ça c'est peut-être une première descente potentielle, ou non, c'est quasiment sûr que tout est infranchissable. Et on fait des espèces de calculs savants, on est convaincu des fois qu'on va trouver un trésor, et puis en fait, on se rend quand même compte que sur le terrain, c'est toujours très différent des images satellites. Et donc, on a parfois des belles surprises, parfois des mauvaises surprises.
J'imagine que ça doit être particulièrement grisant de réussir une première, de se retrouver en bas après avoir étudié le passage sur Google Earth, après avoir pesé le pour et le contre.
C'est toujours hyper gratifiant d'avoir un problème qui nous est posée, qui n'a jamais été résolue. Et nous, en fait, on arrive à le résoudre en se disant, bah, en fait, ouais, on est les premiers à être passés là, quoi. Ce qui est quelque chose extrêmement rare aujourd'hui d'encore de dire, bah, en fait, voilà, on a été les premiers à avoir mis les pieds au fond de ce canyon. C'est quelque chose de... Bah, d'assez fou, finalement.
Est-ce que, Nouria, ça te permet de dire que tu es une exploratrice, que d'avoir été capable, à certains moments de ta vie, de réussir des premières, d'aller là où personne n'était jamais allé avant toi, avant le groupe dans lequel tu étais?
C'est assez compliqué, la notion d'explorateur. Moi, je préfère dire que je suis kayakiste de rivière et que j'aime partir à l'aventure parce qu'au final, des fois, il y a des descentes, on n'est pas les premiers, il y a des gens qui les ont fait avant nous. Mais finalement, pour nous, c'est une première. Et on ressent les mêmes choses d'être dans ces endroits un peu magiques où on est privilégié de voir ça, qu'on soit les premiers ou les seconds.
Parle-nous des sensations, parce qu'on est encore dans cette Patagonie chilienne. Et là, moi, j'ai vu les images. C'est saisissant. 24 mètres. Une espèce de chute vertigineuse, quasiment verticale. Vous vous rendez compte, 24 mètres, c'est quasiment la taille d'une piscine. C'est complètement fou. Et tu dévales ça dans ton kayak, et en retombant aussi bien que possible à l'arrivée, en un peu plus de 2 secondes. Il faut avoir le cœur bien accroché, Nouria, quand on se retrouve au-dessus de ce précipice.
Surtout que moi, j'ai le vertige, en vrai. Oui, donc j'ai beaucoup de difficultés à faire les... Enfin, j'ai beaucoup de difficultés. Je prends sur moi pour faire mes repérages, parce que j'aime pas trop, en fait, regarder dans le vide et me pencher pour voir les réceptions des chutes. Ce qui est assez étonnant, c'est que, du coup, quand j'y vais, mes partenaires... Eux, ils passent très longtemps à regarder, puis moi, je regarde comme ça, je passe la tête 2-3 secondes, puis j'ai vu, c'est bon, j'ai pris mon information, et je vais me mettre bien loin du bord. Ce qui les fait toujours un peu rire, c'est des secondes qui sont très très longues. Parce que y a toute la mise en place, donc il faut être au bon endroit, sur les bons appuis, et après, il faut aussi réussir à gérer la chute libre, à venir mettre la pagaie sur le côté, et à venir, en fait, nous, se recroqueviller parce que sinon, l'impact est trop fort. C'est comme quelqu'un qui fait du plongeon. Il faut que l'entrée dans l'eau soit parfaite parce qu'un plat, ça fait très mal. Et nous, un plat, en général, c'est synonyme de fracture du dos par compression. Dans ce moment-là, il y a énormément de choses à faire, mais il faut les faire vraiment doucement pour pas venir créer des mouvements parasites dans l'incident du bateau. Et finalement, c'est ce qui fait que c'est grisant une chute, parce que c'est très complexe.
Nouria, est-ce qu'on retient sa respiration dans une chute de 24 mètres? Est-ce qu'on est capable de garder les yeux ouverts? Est-ce qu'on maîtrise tout son entourage?
Ça dépend un peu des chutes. Il y a des chutes où on va très vite être aveuglé par l'eau, en fait. Et donc, on ne va rien voir. Mais les chutes les mieux, c'est vraiment quand on voit la réception et quand on voit, en fait, cette ligne d'horizon avant de sauter la chute, et qu'après, finalement, on a juste une ligne d'horizon en face de nous, on a l'impression que c'est le bout du monde. Et puis, en s'approchant et en basculant, on voit la réception. Mais là, souvent, il suffit qu'il fasse beau pour qu'il y ait un arc-en-ciel en bas. C'est quand même quelque chose d'assez magique. Et au final, vu que le temps, il se démultiplie, on a souvent le temps d'apprécier tout ça. Après, moi, j'essaye de bien souffler en amont et au début de la chute pour vraiment rester calme. Mais c'est vrai que quand les entrées, elles sont difficiles, des fois, on a pas forcément le temps de bien caler sa respiration sur la chute. Et j'ai parfois quelques chutes où je crie quand ça se passe pas tout à fait comme prévu. Un jour, il faudra que je fasse une compilation, c'est assez ridicule.
Nouria, est-ce qu'il t'est possible de comparer les sensations ressenties sur une chute comme celle-ci de 24 mètres avec quelque chose d'autre vécu dans ton existence?
Je pense que les sensations brutes, on ne peut vraiment pas les comparer. C'est quelque chose de vraiment spécifique et unique. Par contre, je pense que tout ce qui nous fait un peu peur, quand on va vers nos limites et que finalement qu'on arrive à s'affranchir de cette peur, à la dépasser, à la contrôler pour aller faire quelque chose dont on est capable et qu'on arrive en bas, c'est toujours très gratifiant. Et je pense que ça peut être transférable à plein de choses dans la vie, quoi.
Est-ce que, au cours de toutes ces expéditions réalisées à travers le monde, tu as connu des blessures ?
Ma première grosse blessure, c'était un ego d'adolescente qui avait trop confiance en elle. Donc, c'était ma première grosse chute. Et puis, je me suis cassé le nez avec un trauma crânien en prime. Et j'étais bien défigurée. Donc, ma mère m'appelait Croutard et mes copains du lycée Scarface. Ça m'a servi de bonne leçon. C'est pas très agréable quand t'es adolescent.
Alors, on est allé au Canada, on est allé dans l'Himalaya, en Patagonie. Mais revenons plus près de chez nous, parce que nous avons aussi des rapides, des rivières absolument sublimes. En commençant par le Verdon, tu considères que cet endroit est à la fois magique et terrifiant. C'est pour toi l'un des plus beaux canyons ?
Ouais, le Verdon, c'est vraiment majestueux. Depuis le kayak, on a aussi une vision qui est assez incroyable. Depuis le bas, l'eau, elle est bleue, elle est translucide. Et on a ces passages un peu mythiques où vraiment la rivière, elle passe sous la terre. Donc, c'est des siphons, mais ils sont suffisamment grands pour qu'on puisse les franchir en kayak. C'est pas une section de rivière qui est très difficile, mais en fait, vu qu'elle a beaucoup de siphons, elle est très dangereuse. Donc, il faut pas la sous-estimer et c'est en ce sens-là qu'elle fait peur.
Autre endroit où tu t'es illustré, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, au mois de février de l'année dernière, c'est le franchissement du saut du Doubs, quelques mois seulement après qu'il ait été franchi pour la première fois. C'est important de montrer aussi tes compétences, ton cran et ton courage chez nous, dans ton pays.
Moi, ça me tient à cœur de montrer que même si on est un sport qui est dominé en Amérique du Nord surtout, et que nous aussi, en Europe, on a des très belles choses et le saut du Doubs fait partie de ces chutes incroyables. Elle est magnifique et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable d'avoir une chute de cette qualité-là, finalement, à 5 heures de voiture de la maison. Ça fait plaisir, on peut montrer aux Américains qu'il n'y a pas que qu'on des belles chutes. Et je trouve que c'est important de donner la visibilité aux autres belles rivières.
Nouria Newman, kayakiste de l'extrême, est mon invitée aujourd'hui dans Vie d'aventure. Nouria, quelle est la place des femmes dans ce milieu extrême ? Parce que quand je regarde l'identité de ceux qui t'accompagnent, eh bien, il n'y a quasiment exclusivement que des hommes.
C'est un sport masculin, comme la plupart des sports outdoor, je dirais. C'est en train de changer, c'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de pratiquantes, donc ça fait plaisir. Les jeunes, j'ai l'impression qu'elles se mettent moins de barrières que ma génération et que la génération d'avant. Je pense que c'est important d'avoir des modèles en étant petite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grosse génération juste au-dessus de moi avec Nikki Kelly, la néo-zélandaise, qui ont fait des grosses descentes au moins aussi glorieuses que celles de leurs homologues masculins. Donc, ça permet de se rendre compte que oui, c'est possible. Après, il y a encore beaucoup de barrières. Il y a encore pas mal de sexisme. Moi, je pensais que c'était fini parce que j'y étais plus vraiment confrontée directement. Mais ça va changer doucement, je pense.
Nouria, les femmes sont-elles, dans une descente de rapide, aussi fortes que les hommes ? Est-ce qu'elles peuvent passer exactement aux mêmes endroits que les hommes ?
Les femmes ne sont pas capables de faire exactement la même chose que les hommes. On n'a pas forcément les mêmes profils physiologiques, sauf que le kayak est un sport extrêmement technique. Et du coup, en se focalisant sur les bonnes choses et vraiment en utilisant l'eau, je pense que les femmes peuvent être au moins aussi bonnes, voire meilleures que les hommes. Au final, il n'y a plus franchement de questions genrées quant à ces différences de franchissement. Et le problème, c'est que les femmes elles-mêmes se mettent des limites et je vois énormément de filles en kayak dire qu'elles sont pas capables, qu'elles ont pas assez de force. Et finalement, bah, c'est elles qui se mettent les barrières et c'est peut-être ce que je trouve le plus frustrant.
Ma dernière question concerne ta sensibilité écologique. Est-ce que tu attaches de l'importance à l'évolution de ton milieu au fil des années quand tu descends ces rapides un peu partout dans le monde, souvent dans des zones très reculées?
Je pense que c'est impossible de faire notre sport et de ne pas être sensible au changement climatique. J'ai fait des rivières à 4 ou 5 années d'intervalle où finalement le lit de la rivière avait complètement changé à cause du recul d'un glacier en Colombie-Britannique. J'ai descendu des rivières où si tu bois la tasse, tu vas être malade les 3 jours d'après tellement l'eau est sale. Je suis passée dans des endroits magnifiques et finalement quand tu regardes un peu plus près, c'est des vraies décharges. Je pense qu'on peut être que sensible à ça et en même temps, je me sens pas en position de donner des leçons à quiconque. Je pense que c'est à chacun de faire les compromis qu'il est prêt à faire. Et je me sens pas en position de dire à quiconque qu'il doit arrêter de boire dans des bouteilles en plastique et d'utiliser des gourdes. Parce qu'au final, je suis pas irréprochable. Mon métier m'oblige à prendre des avions, à prendre la voiture. Donc, j'essaye de limiter mes déplacements, j'essaye de trier mes déchets, de faire des petites choses que je peux faire. Mais il y a des grands compromis que je ne suis pas encore prête à faire. Et j'aimerais bien pouvoir me dire « Ah, mais là, en fait, t'arrêtes tout. Tu vas t'installer quelque part d'un peu perdu et tu vas élever tes 3 chèvres. » Mais en fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais j'en ai pas le courage encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai un impact négatif sur la planète.
Est-ce que ta position peut te permettre un jour, avec un peu plus d'expérience, avec un peu plus de bouteilles, de t'engager et d'être moteur dans une amélioration justement concernant ces changements climatiques, ce monde qui ne tourne pas toujours très rond?
Je pense que je peux m'engager à mon échelle, c'est-à-dire que organiser des nettoyages de rivières, c'est quelque chose d'assez concret qu'on peut faire facilement. On n'est pas forcément obligé d'organiser des événements. Il suffit aussi des fois de juste remplir son kayak avec tous les déchets qui flottent de la rivière et puis à la fin de notre descente d'aller mettre tout ça à la poubelle. Il y a des projets de barrage où c'est important en tant que kayakiste de se positionner contre parce que c'est des projets qui sont pas viables et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'énergie hydroélectrique, c'est pas de l'énergie propre. Ça détruit des écosystèmes en entiers. Donc il y a des endroits, c'est sûr que si on va au fin fond du Népal et que ça permet à un village d'être alimenté en électricité, très bien, je ne m'opposerai pas à ces projets de barrages-là. Mais quand c'est des barrages gigantesques pour produire de l'électricité pour les Chinois ou destinés à la revente où c'est pas forcément indispensable. Là, je pense que c'est important d'essayer de valoriser la rivière et la pratique du kayak dans ces endroits-là et la protection des écosystèmes pour lutter contre ces barrages qui sont pas nécessaires.
Merci beaucoup, Nouria, d'être venue dans Vie d'aventure, nous faire partager cette passion pour le kayak extrême, nous emmener à la découverte de ces rapides, de ces canyons que l'on peut découvrir uniquement avec ce type d'embarcation. Et puis, bon vent à toi. La prochaine grande expédition, c'est où et quand?
Là, avec le Covid, c'est pas forcément évident de planifier. Il y a beaucoup d'incertitudes. Mais on est en train d'essayer de partir en Équateur pour faire une première descente, donc une rivière qui a jamais été faite. Donc là, en ce moment, on passe énormément de temps sur l'ordinateur, sur les images satellites et les images qu'on a de la rivière.
Pour bien connaître ce pays, c'est absolument magnifique entre les deux sommets que sont le Cotopaxi et le Chimborazo notamment et la capitale Quito à plus de 3000 mètres d'altitude. Merci infiniment Nouria.
Merci.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.